Cet épisode a été enregistré le 15 mars 2024. Par conséquent, tout ce que vous allez entendre est peut-être déjà obsolète. Compte plein de retraits. Play ball.
Peanuts and Cracker Jack. I don't care if I never get back. Let me root, root, root for the home team. If they don't win, it's a shame. 'Cause it's one, two, three strikes, you're out at the old ball game.
30 équipes, 2 bureaux et 1 podcast par jour. C'est l'épisode 19, c'est présenté par moi, Mike, et celui qui remplit les zéniths aussi bien que les Marlins, le Tropicana Field de Guillaume.
Salut Mike, salut à tous.
Attention, à tout moment, le suicide de la trade deadline peut intervenir et patatras, ou pas. Bienvenue chez les Miami Marlins. Marty, Marlins, en post-season, en 2023, mais tu t'es encore gouré, c'est pas possible. Mais si, Doc, c'est trop bien, regardez, il y avait au moins 12 spectateurs dans le public. Et oui, toujours pas plus de public, mais les Marlins, avec 84 victoires, 78 défaites, troisième de ce qu'on a appelé plus communément la division Coupe-Gorge. Un bilan à 519, franchement, un average au batting où ils sont quatrième en tant qu'équipe qui, clairement, c'est l'arbre qui cache la forêt. Merci, monsieur Arez, sinon le reste du line-up était vraiment pas bon du tout. Starting pitcher, plutôt bon. Bullpen, moyen. En fait, à Miami, on n'a pas trop aimé les mois d'été. 19-32 en juillet-août. Donc en fait, les gars, ils n'allaient pas au stade. Même les joueurs, ils allaient à la plage. Il n'y a pas que les supporters, mais il y avait les joueurs aussi. Ça aurait pu leur coûter très cher fin septembre, mais ils se sont finalement bien repris. Enfin, en tout cas, personne ne les attendait à ce niveau en 2023. Et ce qui est sûr, Guillaume, c'est que personne ne s'attendait à ce que les Miami Marlins soient la première équipe des complots à faire la post-season, parce que c'est le cas, spoiler alert, c'est le premier compte plein. À partir de maintenant, on fait les équipes qui gagnent. Pas jusqu'à la fin, en tout cas, mais qui gagnent, en tout cas. c'est toujours paradis des pitchers, les Marlins, sur les 6 meilleurs WAR de la saison, de l'effectif, t'as 5 pitchers et Luis Arraez. Parlons de Jesús Luzardo, 4,1 WAR, 125 dérapés, 178,2 inning pitch, 208K dans la saison. C'est peut-être pas Alcantara 2022, mais franchement, il a été le patron. On a eu Braxton Garrett, 3,8 WAR, 122 dérapés, Sandy Alcantara aussi, 3,5 de WAR, 108 dérapés, pour une saison qu'on qualifiait de un peu down, plus la blessure, tout ça, et puis surtout en relief Tanner Scott avec 3,6 de WAR, vous avez bien entendu, en relief, 307 dérapés. Bon. Voilà, c'était assez comme d'hab au pays des Marlins, le lanceur est roi. Luis Arraez, deuxième base All-Star, 8e au MVP, c'est le sort régulier, NL Batting Title, 4,9 de WAR, un OPS plus à 133. Il est encore meilleur que l'année d'avant. C'est le premier joueur à être AL et NL Batting Title en back-to-back. C'était jamais arrivé avant. Roré Solaire quand même, une WAR 1,8 sur une demi-saison, je crois, que si je dis pas de bêtises. OBP à 341, OPS 853, OPS plus à 128. Le reste du line-up, c'est moyen quand ils sont bons, sinon c'est vraiment assez nul. Trade deadline, Josh Bell, qui vient de la part des Guardians contre Jean Segura et Khalil Watson. On se rappelle que Jean Segura avait été cuté direct. Ryan Weathers, qui vient des Padres contre Garrett Cooper et Sean Reynolds. Et Jake Burger, qui vient des White Sox contre Jake Eder. C'était la première fois en 20 ans, si on compte pas 2 millions, puisque tout le monde sait, c'est une petite parenthèse qui n'existe pas dans la réalité, c'est le multivers, dans la réalité. Les Marlins ont fait les playoffs. Et c'était quand même assez fou. Ils ont établi un nouveau record de franchise en gagnant 12 matchs, et même un nouveau record de MLB, pardon, en gagnant 12 matchs d'affilée, ouais, c'est ça, 12 matchs d'affilée à un run d'écart. Okay, ils ont fini la saison à 33 victoires, 14 défaites dans ce mode-là, donc à un run d'écart, ce qui veut dire que tu avais de très bons lanceurs parce que tu galérais à scorer. Les Marlins avaient un différentiel de moins 57, c'est la cinquième de la National League. Ils ont quand même fait les playoffs pour seulement la quatrième fois de l'histoire. Voilà, Arraez qui n'a pas fini à 400, mais a gagné le batting title. Peut-être la seule chose intéressante que les Marlins aient gagné cette année, Pecota, ouais, à 80-82. Donc en fait, Pecota n'était pas forcément vu en playoffs, mais c'était pas très loin du résultat final. Surtout ce que Pecota n'avait pas prévu, c'était la déchéance des autres équipes, enfin d'une partie des autres équipes de la division. Wildcard contre qui? Bah, contre les Phillies qui finissent juste devant le classement 2-0. Ils ont pris 11-2 sur la série, un tout petit tour, 120. Bon, c'est déjà pas mal de rentrer dans le parc d'attraction de la post-season. Demandez aux Cardinals ce qu'ils en pensent. En tous les cas, balle perdue. En tous les cas, quand c'est la fin de la post-season, Guillaume.
Ma place à la post-season, à la
Non, non,
off-season,
non. Ah
face
oui,
à la
c'est la fin.
off-season. Non, mais je rigole parce qu'en fait, c'est moi qui ai écrit pas mal de trucs ici et j'avais pas vu la balle perdue que tu viens d'écrire pour les cards. Et au moment de la lire, je me suis dit, ah oui, effectivement, c'est pas moi qui aurais pu la mettre. Allez, payroll en 2023, 79 millions de dollars. Payroll en 2024, 95 millions de dollars, 16 millions de dollars de plus pour essayer de continuer sur la lancée qu'ils ont fait l'année dernière. On dépense toujours pas à Miami et surtout on compte ses sous, mais il y a un petit peu de mieux. Allez, on va voir ce que ça a donné. Ils sont considérés comme 29e équipe pour les moves qu'ils ont fait en off-season. Ils ont juste fait les playoffs et d'une façon ou d'une autre, on se demande comment, avec ce qu'ils ont fait, ils vont pouvoir les refaire l'année prochaine. C'est une grosse, grosse question. Il n'y a eu aucun effort de mis et il y a peu de chances pour qu'ils les refassent. Mais bon, on verra bien. Les enjeux et les attentes avant la post-season, bah, c'est du bâton, comme chaque année, parce que s'il y a bien quelque chose qu'ils n'ont pas, c'est ça. Et puis du bullpen, parce que cette année, ça a été cata. En arbitration, ils ont perdu l'arbitration contre Luis Arraez, qui a quand même re-signé pour un an, et contre Jazz Chisholm Jr., qui a re-signé quand même pour un an. Ils ont gagné contre Tanner Scott, qui a re-signé pour un an. Et sinon, ils ont évité cette arbitration avec Christian Betancourt, catcher, Jesus Sanchez, outfielder, Jesús Luzardo, starter, Trevor Rogers, starter, Steven Hauckert, reliever, JT Chargoyce, reliever, Edgy Puck, reliever, Anthony Bender, reliever, qui ont tous re-signé pour un an. En free agency, ils ont signé roulement de tambour, mais quelle signature! Tim Anderson, shortstop pour un an. Ils ont perdu par contre Jacob Stallings, catcher, Garrett Hampson, utility player, Yuli Gurriel, première base, Joey Wendell, infielder, Jorge Soler, outfielder, Emmanuel De Jesus, starter, Johnny Cueto, starter, Matt Barnes, reliever, Tommy Nance, reliever, David Robertson, reliever. Ils ont fait des trades. Peyton Burdick, outfielder qui est parti aux Orioles, Nick Gordon, utility player qui est arrivé des Twins, et Steven Hauckert, reliever qui est parti. Jonah Bride, infielder qui est arrivé des Athletics, Darren McCollum qui est arrivé des Mariners, un starter. Rodri Munoz, un pitcher qui est arrivé des Pirates. Christian Betancourt, catcher qui est arrivé des Guardians. Et Jake Mangum, un outfielder qui a été tradé aux Rays pour un joueur qui sera nommé plus tard. Vidal Brujan, finalement, et Calvin Fauscher qui sont arrivés de chez les Rays pour Andrew Lindsay et Eric Lara. Ils vont commencer la saison évidemment avec des blessés. Sandy Alcantara qui ne s'est pas remis de sa Tommy John surgery. Edward Cabrera qui a un problème au niveau de l'épaule. Braxton Garnett qui a également un problème au niveau de l'épaule. Le farm system des Marlins, il en est où? Eh ben, il est 28e. Aussi mauvais dans la off-season, dans leur trade, que pour leur farm system. Il n'y a plus rien. Franchement, il n'y a plus rien. C'est un gros, gros problème. Ils ont un peu de pitching qui devrait arriver, mais c'est pas avant plusieurs années. Au mieux pour dans 2 ans. L'effectif global, catcher Christian Betancourt, première base Josh Bell, deuxième base Luis Arraez, troisième base Jake Burger, shortstop Tim Anderson, champ gauche Brian De La Cruz, champ centre Jazz Chisholm Jr., champ droit Jesús Sánchez, DH Avisail Garcia, sur le banc Nick Fortes, catcher, John Bertie, utility player, Vidal Brujan, utility player, Nick Gordon, utility player. Dans la rotation, Jesús Luzardo, Eury Pérez, Edgy Puck, Trevor Rogers et Ryan Weathers. Setup, Andrew Nardi, Anthony Bender. Closer, Tanner Scott. Et dans le bullpen, Jorge Soriano, JT Chargoyce, Sixto Sanchez, Declan Cronin et Brian Hoeing. On retient qui dans cette équipe pour la saison prochaine, Mike?
Parler des Marlins sans commencer par le pitching, ce serait quand même leur faire offense, parce que c'est ce qui fait leur force. Et là, on l'a vu l'an dernier, ils vont se réattendre à ce que ce soit encore lui cette année, c'est Jesús Luzardo. Il a vraiment été le leader en 2023. Il a compensé une grosse partie de l'absence ou de la sous-performance de Sandy Alcantara. Il est peut-être la raison numéro 1 bis, avec un frappeur dont on parlera tout à l'heure. Spoiler, Luis. qui les a amenés en post-season, c'était que la troisième saison de Luzardo. Et très honnêtement, on avait vu des bonnes choses de lui, notamment en 2022. Mais là, ce qu'il a fait l'an dernier, c'est quand même largement au-dessus. Et le fait est que, du haut de ses 26 ans, on s'attend à ce que maintenant, il est positionné comme ace. On s'attend à ce que ce soit lui le numéro 1. La rotation va reposer sur Jesús Luzardo. Ce sera l'ace qu'on en verra dans les grands matchs. Est-ce que derrière, ça suit? C'est la question qu'on se pose.
Ce qui est intéressant justement, c'est que on prend quasiment les mêmes et on recommence quoi. On voit de toute façon depuis plusieurs saisons que les pitchers, c'est l'ADN de la franchise. Hein. Ça, y a pas à chier, c'est comme ça. Pour que la franchise elle performe, c'est ce qu'on a déjà vu. Enfin, c'est ce qu'on a vu l'année dernière, même s'il a manqué un lanceur. Mais c'est d'un certain côté, est-ce que ça n'a pas été bien que on se repose pas que sur Sandy Alcantara, comme il y a eu les saisons précédentes, puisque ça a permis aux autres un petit peu de d'élever leur jeu. Et pour que la franchise performe, il faut que la rotation performe aussi. Sandy Alcantara, le Cy Young de 2022, va manquer l'entièreté de 2024 après sa Tommy John surgery. Il y a très très peu de chances hein, pour qu'il revienne avant 2024. À mon avis, ça sera complètement pour 2025. Donc je trouve que la rotation est plutôt pas mauvaise. Quand tu regardes un petit peu dans le détail, Jesús Luzardo, Eury Pérez, Edgy Puck, qui est pas annoncé dans les power rankings, mais qui est plutôt pas mauvais. T'as déjà Jesús Luzardo et Eury Pérez qui sont en one-two punch, qui sont bien. Dans les mecs qui vont arriver par la suite, t'as Edward Cabrera aussi, qui a pas fait un bon début de saison la saison dernière, mais qui s'est bien rattrapé. Derrière Trevor Rogers et Ryan Weathers. C'est pas déconnant. On a une rotation qui est peut-être un petit peu moins forte, mais qui sera quand même un des points forts de la franchise.
Cette rotation, moi, Guillaume, elle me pose question parce que je suis désolé, mais Jesús Luzardo, oui, potentiel de Cy Young, de Dace en tous les cas pour commencer. On va pas s'emballer, mais voilà, Eury Pérez, très bien, mais Eury Pérez, il a lancé 90 manches l'an dernier. Il a à peine 21 ans et là il est déjà spot 2. Edgy Puck. C'est un lanceur qui est plutôt moyen, Edgy Puck. Et là, on s'attend à ce qu'un gars qui est projeté en plus qu'à 100 manches, déjà numéro 3, Trevor Rogers, 110 manches, numéro 4, Ryan Weathers, 76 manches, numéro 5. La vraie question, c'est que Alcantara, il ne reviendra pas. C'est comment Edward Cabrera et Braxton Garrett, quand ils vont revenir, et comment ils vont revenir, parce que ces deux-là, ils vont avoir un spot directement. Et il y a même des chances que Eury Pérez, du haut de sa jeunesse, peut-être redescende un peu dans cet alignement. Et ensuite, tu as tout le bullpen, parce que le bullpen, tu as Tanner Scott qui a été monstrueux, tu as du Nardi qui est très très bon, et puis après, il y a quand même des énormes questions, tu as des rookies qu'on n'a quasiment jamais vus, genre Soriano, Anthony Maldonado, Declan Cronin, Brian Wynn qui a une première saison qui n'est pas non plus incroyable, Nardi Bender, c'est 1 an et 2 ans, et puis surtout, Sisto Sanchez. Le bullpen, très honnêtement, on se pose de grosses questions là-dessus. Hein.
Ouais, le bullpen, il questionne énormément. Je suis un peu moins inquiet que toi sur la rotation, mais après, on n'est pas là pour faire un débat non plus. Le bullpen, effectivement, là, c'est vraiment une grosse interrogation. Autant t'as un setup et un closer qui sont vraiment indiscutables. Après, t'as des mecs qui sont projetés comme étant bons, t'en as qui n'ont pas encore prouvé. C'est très jeune, c'est très très jeune. C'est ce qu'on oublie souvent de dire aussi, hein, c'est que le plus vieux dans le bullpen, c'est Tanner Scott. Il va avoir 30 ans cette année. Il y a qu'un seul joueur qui a plus, enfin il y a que deux joueurs, trois joueurs qui ont plus de 30 ans dans le line-up. On reste sur des Marlins qui sont vraiment très très jeunes. Il n'y a pas réellement de vieux pour encadrer le truc. Et ça fait aussi partie des interrogations, quoi. C'est tu te dis, c'est bien de mettre de la jeunesse, mais ça fait pas tout, quoi. C'est les mecs sont projetés, et c'est toujours des projections, mais est-ce que ça va réussir à transformer l'essai, à devenir réellement opérationnel et bon sur le terrain? C'est des grandes questions qui se posent. Et il y a un manque de stabilité en plus dans les Marlins, qui est pose question cette saison, puisqu'il y a Kim Enge qui était leur GM, qui est parti en off-season. qui a été montré un peu du doigt. Il y a une partie qui dit que c'est de sa faute s'il y a plus de, s'il y a plus de comment ça s'appelle, s'il y a plus de farm system. Mais en même temps, c'est quand même elle qui les emmène à remonter en post-season. Tu vois, il n'y a pas une grande stabilité rassurante, on va dire, sur, sur l'ensemble de la franchise.
On n'oublie pas l'épisode Jeter il n'y a pas si longtemps que ça.
Ouais, c'est ça.
Et oui, après, mais même au niveau du line-up, là, on a passé vite fait, mais il faut quand même.
Ouais, line-up, on l'a passé vite fait, ouais, pardon.
Qu'on s'y arrête dessus, parce que oui, Usarez, c'est vraiment le totem. Hein, et Fangraff ne le voit que 43e, parce qu'en fait, on estime que c'est un espèce de joueur en monotâche, quoi. Son job, c'est frapper des hits. Il n'a même pas un OBP, il a un bel OBP, mais par rapport à son average, il n'est pas si énorme que ça. Il prend pas autant de bébés qu'on pourrait le croire. Son slugging n'est pas fou, il ne vole pas non plus des bases de manière incroyable, donc c'est pour ça qu'il a ça, et défensivement, Usarez, bon,
non, voilà, c'est pas ça, non.
Voilà, c'est ça. Donc, au final, tu sais que ça va être un joueur qui va être placé certainement dans les votes MVP, qui risque de faire encore une grosse saison régulière. Il a quand même 27 ans, n'oublions pas. Mais derrière lui, il y a qui? Parce que derrière lui, moi, quand je regarde, Bell, Burger, De La Cruz, ok, c'est des mecs projetés dans le top 100. Mais si eux, vraiment, ils ne tiennent pas leur rang, et surtout si eux, ces trois ne sont pas ce pour quoi on les attend, à savoir de la puissance, c'est les trois seuls joueurs projetés au-delà des 20 home runs. D'accord ? C'est les trois seuls projetés avec un slugging au-delà des 450, je crois, presque. Donc, en fait, on attend d'eux cette partie-là, la puissance. Mais si eux, ils sont pas là, ça va être qui après ? Ça va être Josh Chisholm ?
Bah, Jess Chisholm, on sait pas trop, quoi. La projection le met 190e, mais.
C'est très très bas, hein.
Ouais, c'est bas, et puis en fait, on sait pas, quoi. On reste dans l'attente, parce que ce mec-là a été présenté comme un top prospect, il a été blessé. Donc voilà. En fait, Jess Chisholm, on sait pas réellement ce qu'il vaut, quoi, parce qu'on l'a pas vu assez longtemps, on a eu juste des petits aperçus, mais on n'a pas vraiment une saison référence sur laquelle se mettre, quoi. La franchise, elle le voit haut parce que elle le positionne cleanup hitter en 4, quoi, mais est-ce que c'est vraiment un cleanup hitter, quoi? Et après, en même temps, je comprends, tu vois, que la franchise puisse pas faire grand chose parce que bah ils ont un owner qui est pas habitué à mettre la main au portefeuille et aller faire des gros trucs, hein, faire des gros trades et aller mettre de l'argent sur la table pour renforcer son équipe, qui préfère aller chercher des jeunes pour essayer de les former. Bah, de toute façon, on le voit bien, comme en plus, quand le gros ajout que tu mets, c'est Tim Anderson, et quand tu sais que Tim Anderson, l'année dernière, il fait partie des deux plus mauvaises OPS de...
C'est qui le deuxième? Je m'en rappelle plus.
Si tu sais, tu sais très bien.
Non, je veux bien qu'on s'arrête.
On va pas rentrer dans un bashing, quoi.
Non, on va pas rentrer dans un bashing parce qu'on le fait déjà depuis 4 ans. Tim Anderson, par contre, il n'est qu'à 5 millions.
Non, ça c'est.
Moi, franchement, je trouve que c'est une très belle addition pour les Marlins, parce qu'en vrai, à 5 millions, qu'est-ce qu'ils ont à perdre? À 5 millions, j'ai du mal à croire que le vrai Tim Anderson soit le Tim Anderson qu'on a vu l'an dernier. Parce que on l'avait jamais vu avant, ce Tim Anderson. Je dis pas qu'on va avoir le Tim Anderson de 2021 ou de 2019 où il était à des WAR à plus de 4,5, mais au moins entre 2 et 3, je crois que c'est le Tim Anderson qu'ils ont. Et ça, par rapport à Jorge Soler, pour moi, il apporte déjà quelque chose, et en plus un jeu que Soler n'aurait pas apporté en nombre de bases, en defense, etc. Mmh. Donc moi, je trouve que c'est une belle addition. Je trouve que c'est un beau move et que c'est bien d'aller le chercher, de le tenter. Maintenant, il va falloir le gérer. Là-dessus, ça n'a jamais eu trop l'air de leur poser des questions. Mais le problème, vraiment, c'est que après Tim Anderson, mais c'est la fin du line-up, quoi. Enfin, Rezo Sanchez, ouais. Avisel Garza. OK pour De La Cruz, et on va voir ce que ça donne, parce qu'il y a encore du potentiel et qu'on attend de ce gars-là. Et Christian Betancourt. Mais après, et ça fait peur. Et le banc, mais tu l'as vu, le banc, la profondeur du bench.
Ouais,
Fortes, Berti, Brouran, Gordon. Mais t'as pas un gars, peut-être John Berti dans certains, et encore, qui serait titulaire ailleurs, quoi.
Non, Vidal Brouhan, ça restera, si ça continue comme ça restera un beau what if. C'était quand même un prospect dont les Rays attendaient quand même. C'était pas la même hype que Franco, loin de là, parce que c'est pas possible, mais ça restait un mec où ils attendaient quand même de lui, et finalement, tu vois, ils ont abandonné. Quand ils le trade cette année, c'est que... Mais généralement, on l'avait dit, hein, les Rays, quand ils font un trade avec toi, tu peux toujours t'imaginer que tu viens de te prendre une belle carotte. Donc voilà, ouais. Bah ils le mettent sur le Vidal Brouhan, c'est un mec qui va te tenir qui va te tenir de c'est un utility player. De toute façon, tu vois bien que le banc, il est là pour combler des trucs. Les trois, enfin, t'as un mec qui peut tenir le catch, c'est Nick Fortes. Après, les trois autres, c'est que des utility players, quoi. Tu vois, il y en a aucun qui est spécialisé dans un truc en particulier, quoi.
Guillaume, c'est vrai qu'il y en a aucun qui est spécialisé. Et chez nous, il y en a aucun qui est spécialisé dans les pronos de l'équipe avec nos partenaires de Paris Amateur, le seul site de Paris Sportif qui vous assure de perdre de l'oseille. Alors, Guillaume, post-season ou pas post-season pour les Marlins en 2024?
Non, pas post-season. Je pense que ça va être moins bon que la saison dernière. La saison dernière, ils étaient à 84-78. Je pense qu'ils vont repasser juste en dessous. Ils vont être à 80-82. Je pense. Je les vois pas plus.
C'est quoi, après l'avoir fait, j'avais mis les Mets quatrième. Bah, je pense même que les Marlins, ils peuvent finir derrière les Mets. Je pense que je vois les Marlins quatrième, même pas. Je parle même pas de bilan. Je pense que je les vois beaucoup plus bas que ça. Parce que ils se sont clairement pas améliorés par rapport à l'an dernier, voire même certainement affaiblis. Et c'est ce qui va rendre leur saison très difficile. Ce qui peut vous rendre votre saison difficile, bah, c'est que vous pouvez nous écouter sur toutes les bonnes applis de podcast. Et ça, c'est peut-être la seule chose sensée que j'ai dite depuis le début. N'hésitez pas à vous abonner et nous donner une note et un commentaire. Cela nous aide à rendre le baseball et notre émission plus visible en France. Alors, Guillaume, on se réécoute demain ou pas?
Mais bien sûr, à coup sûr, j'ai envie de te dire qu'on se réécoute demain.
Miguel bate, jaque mate. Miguel bate, jaque mate.
Moss looks up and it's gone. Miguel Cabrera.
Felices sus días y acompáñenos esta noche de show.
Soy Miggy, el salsero que da la pelea, demostrando que los peloteros se la crean. Representando la vieja escuela, aparte de jugar, escribimos candela. Lanza tu mejor rima, que de los tigres la batea. El que no se acuesta cuando rumbea. El triple crown, nacido y criado en Venezuela. Vengo de barrio humilde, llamado La Pedrera. Los gringos bailan pegados, aquí no se juega. Aquí hay más talento, esto suena a bandera. Rima de sobra, pa' mata cualquiera. Se vino a guerrear, empujé otra carrera.